Bien, bonsoir, bonsoir aux fidèles de ces mardis d'éthique publique au Centre Sèvres. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans une dizaine de villes de France et d'Europe. Et bonsoir aussi aux auditeurs de RCF, la radio sur laquelle ces mardis d'éthique publique sont retransmis. Le mardi d'éthique publique de ce soir est un petit peu particulier. Il est organisé en partenariat non seulement avec la revue Études, comme à l'habitude, mais aussi avec le Centre d'études du fait religieux contemporain, qui organise cette année son colloque sur le retour du religieux. Et le titre qui a été retenu pour problématiser un peu notre rencontre de ce soir, c'est Religion, l'éternel retour du différent. Revanche de Dieu, réenchantement du monde, les ouvrages n'ont pas manqué depuis une vingtaine d'années qui évoquent un retour du religieux dans un monde qui se serait depuis longtemps sécularisé. De fait, qu'il s'agisse de manifestations de masse spectaculaires et pacifiques, du type Journée mondiale de la jeunesse, ou au contraire de la radicalisation violente de mouvements politiques se réclamant de telle ou telle foi religieuse, les médias globalisés sont pleins de religions, alors même que, dans le cas français en tout cas, celle-ci semblait avoir disparu du paysage depuis bientôt un demi-siècle. En parallèle, les indicateurs fournis par les instituts d'observation de la réalité religieuse, et pas seulement les sondages, montre que la désaffection à l'égard de la croyance religieuse, et encore plus à l'égard de la pratique religieuse, constatée depuis les années 60, n'a pas cessé de poursuivre sa progression, au moins en Europe en tout cas. Qu'en est-il alors dans la réalité? Convient-il, avec les sociologues Grace Davy et Peter Berger, d'évoquer une exception européenne sécularisée dans un monde qui n'aurait jamais été aussi religieux qu'aujourd'hui? Où sommes-nous entrés, comme le suggère le philosophe Olivier Roy, dans le temps des religions sans culture, celui des mouvements mondialisés de type pentecôtiste ou salafiste, venant combler, pour combien de temps, le vide créé par la disparition des expressions traditionnelles de la foi? Pour tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres, les mardis d'éthique publique ont le grand plaisir d'accueillir ce soir Monsieur le pasteur Jean Arnold de Clermont, ancien président de la Fédération protestante de France, président de l'Observatoire Pharos sur le pluralisme culturel et religieux, et le professeur Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est-Créteil, auteur tout récemment de « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » aux éditions du Seuil, un livre qui a déjà fait beaucoup parler. Et c'est le pasteur de Clermont qui prend le premier la parole.
Alors, les propos que je peux tenir ne sont pas ceux d'un universitaire. Je ne suis ni philosophe, ni historien, ni sociologue, ni théologien académique. J'ai été tenté d'aller relire Grace Davy, Peter Berger, Olivier Roy, Daniel Hervieux-Léger, etc., et d'en faire une espèce de condensé, mais bien vite j'ai abandonné. Parce que ce ne sont pas les propos que je peux tenir. Je peux tenir les propos d'un homme de terrain qui a traversé plus d'un demi-siècle en situation de responsabilité pastorale, locale, nationale, internationale. Je m'exprime dans le contexte français, mais avec un double arrière-plan d'expérience européenne. J'ai été président de la Conférence des Églises européennes et africaines. L'Afrique qui est mon deuxième continent, si j'ose dire. Alors je commence par une anecdote. Un instant dans ma vie d'étudiant en théologie, mais un instant qui m'a profondément marqué, auquel je repense très régulièrement. Il se situe au printemps 1986. Après une année et demie passée en Afrique comme volontaire du service national, je suis de retour à Paris pour terminer mes études de théologie. Mes camarades étudiants, qui pendant que j'étais en Afrique ont pris un ou deux ans d'avance sur moi, ont invité le grand théologien qui a marqué la génération d'après-guerre, Karl Barth, à l'occasion de ses 80 ans. Après sa conférence, Ils se risquent, eux, déjà étudiants presque chevronnés, à poser des questions qu'ils veulent intelligentes. Et l'un d'eux risque « Monsieur le professeur, ne croyez-vous pas que nos églises, après avoir été incapables de formuler avec autorité une parole de conviction sur la justice et la paix lors du conflit algérien, et ils auraient pu dire du conflit vietnamien, devraient désormais se taire et vivre une spiritualité tournée vers le privé ?» Et je vois encore ce vieux monsieur de 80 ans qu'on avait installé sur l'estrade de l'amphithéâtre de la faculté de théologie protestante de Paris, se lever de son fauteuil comme un jack-in-the-box et dire presque avec violence « Vous devez savoir que la parole de Dieu que vous êtes chargé d'annoncer dépassera heureusement toujours les raisonnements et les paroles bien humaines que vous pourrez formuler. Vous êtes au service d'une parole qui vous dépassera toujours. Quelle leçon pour de futurs prédicateurs ?» Je vous raconte cette histoire parce qu'elle me semble introduire quelques questions autour du retour ou du non-retour du religieux. Et tout d'abord, l'histoire de ma génération. Celle qui n'a pas vécu les guerres mondiales, mais en a subi les conséquences. Et la première d'entre elles, qui est la mise en cause des institutions, et face à cela, la tentation qui était parfaitement exprimée par cet étudiant en théologie, se risquant devant Karl Barth, la tentation de l'enfouissement. Je vous parle d'un vieil ami, il a 8 ans de plus que moi et m'a donc précédé en études de théologie, en pleine effervescence de la guerre d'Algérie. Il a été jusqu'au bout de ses études et a été admis comme pouvant être pasteur de l'Église réformée de France. Mais le jour venu d'entrer dans le cursus avec le premier stage, puis le premier période dans une paroisse, il est parti comme attaché culturel en Afrique, convaincu qu'il témoignerait là plus authentiquement de la foi qui l'animait, parce que n'étant pas dans ce contexte, assimilé à l'Église qui pour lui avait failli. 10 ans plus tard, nous étions 12 dans mon année de théologie en faculté de théologie de Paris. 3 seulement sont devenus pasteurs à la sortie de la fac. Dans le même temps, l'Église réformée de France perdait, entre 1950 et 1980, plus d'un tiers de ses membres. J'estime que le choix de mon collègue, d'ailleurs revenu comme pasteur dans l'Église réformée de France en 1979, est tout à fait symptomatique de la vague de départ qui a frappé nos églises dans les années 50-80. Est-ce pour autant une prise de distance à l'égard du religieux? Sous sa forme institutionnelle, sans aucun doute. Avec des conséquences sur le plan individuel, j'en suis tout aussi convaincu, parce que le communautaire, le collectif aide à porter la foi individuelle. Et si celle-ci s'effondre, si le collectif s'effondre, l'individuel a beaucoup plus de mal à résister. Même en protestantisme, si individualiste dans sa forme du croire. Mais l'histoire symbolique de mon collègue dit aussi que lorsque la cause de la désaffection institutionnelle s'estompe, non dans les faits, mais dans les conséquences sur la vie de la société, le retour vers l'expression institutionnelle du croire est possible. Sans vouloir parler de réveil de nos églises protestantes de France, le constat est évident que dès les années 80, les effets de la crise s'estompent, les postes pastoraux sont mieux pourvus par des pasteurs qui, pour 30 à 50% d'entre eux, ne viennent pas du giron protestant, et l'hémorragie des fidèles s'arrête avec une arrivée de membres nouveaux, notamment dans les grandes villes. Reste pourtant, des transformations profondes. Le pasteur est tombé de son piédestal. Seule sa foi, ses convictions, ses compétences, son dynamisme lui assurent le respect de ses fidèles. Gare à celui qui se fait une trop haute idée de son ministère. Gare à celui qui arrive dans ce ministère sans avoir été confronté dans sa foi à un monde souvent critique, sinon hostile. L'individualisation du croire fait du ministère pastoral un défi quotidien. J'emploie cette formule de l'individualisation du croire comme un constat, une conséquence de la perte de confiance dans les institutions, mais aussi une conséquence de l'individualisme moderne. Et celui-ci peut être redoutable pour le religieux. Allez, je fais une petite concession. Je cite Daniel Hervieux-Léger, « Si l'individu produit lui-même de façon autonome le petit dispositif du sens qui lui permet de mettre en récit sa propre vie et de répondre aux questions ultimes de son existence, si son expérience spirituelle se condense dans une relation intime et purement privée avec ce qu'il choisit ou non de nommer Dieu, si cette expérience éminemment personnelle ne prescrit pas une action spécifique dans le monde, quelle place peut encore occuper l'appartenance à une communauté croyante dans cette économie spirituelle ? Le protestant classique que je suis est pris au piège de ses convictions sur l'Église. Pour moi, elle est d'abord le lieu qui va permettre à chacun, chaque personne, de découvrir le face-à-face avec Dieu et de se former, ce qui lui permettra de vivre sa vocation dans le monde. Rien ne peut me réjouir plus que de savoir chaque personne découvrir qu'elle est un être unique, aimé par Dieu, appelé à en témoigner dans sa vie quotidienne. Mais il n'y a qu'un pas, vous le sentez bien, entre ce que je dis là et la prétention du monde contemporain, que chacun soit à lui-même sa propre référence. La foi chrétienne n'est pas notre auto-réalisation, mais notre réalisation dans la soumission à un tout autre. Le protestant classique que je suis insistera sur la lecture quotidienne de la Bible, beaucoup plus que sur le culte hebdomadaire, plus sur une morale individuelle que sur une pratique communautaire, et il se trouve dépassé, sur sa gauche ou sa droite, vous choisirez vous-même, par une société résolument individualiste. Désamour à l'égard des institutions, individualisme, voilà ce qui a mis à mal les communautés religieuses classiques et pourtant jamais peut-être il n'a été autant question du religieux. D'où votre question, quel retour du religieux ? Je réponds à trois niveaux différents. Le premier est le niveau individuel. J'aurais pu prendre les statistiques internationales sur les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes dans le monde, semble-t-il en constante progression. Pour l'Afrique centrale, que je connais mieux, avec des chiffres de croissance du christianisme égaux, sinon parfois supérieurs, aux courbes de croissance de la population, même au Tchad, pays résolument musulman. Mais je ne suis nullement impressionné par ces chiffres dont on ne sait pas ce qu'ils recouvrent. Au moins indique-t-il une chose, la permanence de la quête religieuse, ou plutôt la permanence de ces deux natures de l'homme, spirituelle et politique, verticale et horizontale. Ces deux natures qui ont pris une place déterminante dans la sphère publique. Longtemps, le religieux a monopolisé la sphère publique jusqu'à ce que la sphère publique ait neutralisé le religieux. Est-ce pour autant que le religieux était parti ? Mon premier niveau de réponse à votre question consiste à dire pas plus qu'il y a eu de départ du religieux, à moins d'assimiler les déboires numériques de nos églises à une perte du religieux, il n'y a de retour du religieux. Il y a des rapports nouveaux entre le religieux et le politique, au sein d'une histoire qui n'a cessé de fluctuer entre trois pôles, la confusion entre le politique et le religieux, le conflit entre le politique ou le religieux, ou le dialogue entre le politique et le religieux. Deuxième niveau de réponse, le protestantisme évangélique. Il a le vent en poupe. Avec 470 000 pratiquants réguliers, il représenterait un tiers des protestants français, mais les trois quarts des pratiquants. Il est en plein développement. 1 500 églises supplémentaires depuis 1970. Une tous les 10 jours. Son objectif, une église pour 10 000 habitants. Avec un taux de pénétration dans le Gard, par exemple, qui arrive en tête, avec 0,94 églises pour 10 000 habitants. Mais avec un bémol, un recul par rapport à 1970, où il en comptait 1,11 pour 10 000 habitants. Pourquoi ce succès à rebours des difficultés connues par les églises, appelons-les institutionnelles? On peut invoquer de nombreuses raisons. Le côté extrêmement efficace, même si je le trouve simplificateur, du message pentecôtiste. Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient. La stratégie territoriale de petites communautés disséminées. Mais pour le sujet qui nous concerne, le soi-disant retour du religieux, j'écoute avec attention l'analyse d'Olivier Roy dans son ouvrage « La Sainte Ignorance », cité par Patrice de Plunkett, qui fait remarquer que la sécularisation, loin d'avoir aboli le religieux, l'a bien au contraire autonomisé en l'affranchissant du politique. En détachant le religieux de notre environnement culturel, écrit-il, elle le fait apparaître au contraire comme du pur religieux. Dans le collimateur se trouve l'espace théologico-politique, celui occupé jadis par l'État-nation et les églises traditionnelles. Pour que le religieux circule sans entrave dans des sociétés ouvertes, il faut qu'il se détache de ses marqueurs culturels, historiques, institutionnels. Seule façon pour lui de s'internationaliser. L'évangélisme, tout autant que le salafisme chez les musulmans, est ainsi parfaitement calibré à la demande globale. On pourrait citer encore. Je parlais tout à l'heure des rapports classiques entre religieux et politique, confusion, conflit, dialogue. Il y aurait donc une quatrième dimension, l'ignorance du religieux à l'égard du politique. Je crois pouvoir affirmer que c'est le cas en France. Ça l'est beaucoup moins aux USA, où certains gouverneurs sont élus avec l'appui du monde évangélique, qui surveille ensuite leurs décisions. Je souhaite introduire un troisième niveau et dernier de réflexion, car il y a bien en effet une prétention politique du religieux. Ma foi n'a de sens que si, au-delà ou à travers ma relation à Dieu, elle m'aide à vivre ma vocation de croyant, qui est de participer à la construction d'un mode selon la volonté de Dieu. Et si ma foi s'exprime dans un collectif que j'appelle église ou communauté ou religion, il est bien naturel qu'elle soit en dialogue avec le politique. Et ce dialogue suscite deux réactions aussi naturelles que contradictoires. L'approbation, selon des pays, elle est plus ou moins évidente, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, on n'est pas en France. Mais chez nous, depuis des années, ce dialogue avec le politique s'est développé, on peut même dire qu'il s'est institutionnalisé. Avec le choc en retour inévitable de la part de ceux qui en récusent le principe, c'est dans leur milieu, de ceux qui récusent le principe du dialogue entre politique et religieux, que se n'énonce le plus souvent ce fameux retour du religieux, compris comme une menace. Il est on ne peut plus normal que récusant pour eux-mêmes le religieux, ils en dénoncent le soi-disant retour. d'autant plus que beaucoup ont imaginé que la société séculière qui avait succédé à la société chrétienne serait libérée de ce qu'ils considèrent comme des obscurantismes. Il faut être bien ignorant de ce qu'est le religieux pour penser qu'un monde en plein questionnement sur lui-même, en pleine incertitude sur son avenir, puisse se passer de convictions spirituelles. Alors, en quelques phrases de conclusion, je ne parle pas d'un retour du religieux, mais d'une permanence du religieux. Par contre, les rapports entre le religieux et le politique ont considérablement évolué entre la situation de chrétienté qui a prévalu jusqu'à la fin du XIXe, la progressive sécularisation de la société, le déclin des institutions, y compris religieuses, et le moment des minorités convictionnelles dans lequel nous vivons actuellement. À notre société de choisir la relation la plus intelligente dans une perspective de reconnaissance de la diversité des appartenances comme une richesse et non comme un facteur de violence et d'exclusion. Je vous remercie.
Merci au pasteur de Clermont de cette entrée en matière vigoureuse à partir de cette une riche expérience. Donc, retenons effectivement ce non-retour du religieux, mais cette transformation. Verrons si l'intervenant suivant, Guillaume Cuchet, confirmera ce diagnostic. Voilà, je lui laisse maintenant la parole.
Voilà. Alors, bon, moi, je vais prendre le problème un peu différemment en historien et parler essentiellement du catholicisme français. Quand on m'a soumis cette question, quel retour du religieux, j'ai pensé qu'en France, au fond, on en parlait quasiment depuis la publication du génie du christianisme de Chateaubriand en 1802, et que périodiquement, il est question de ce retour du christianisme, en l'occurrence en 1802, le retour du christianisme après la Révolution, après les Lumières. Et en un sens, retour du religieux, ça pourrait probablement être une entrée dans le dictionnaire des idées reçues. Le religieux, il revient. En France, périodiquement, on nous parle de ce retour perçu tantôt comme une bonne nouvelle, tantôt comme une menace. Ce serait presque parmi nous son mode d'existence normal, d'une existence de zombie, dirait Emmanuel Todd, qui ne cesse pas de revenir dans la contemporanéité, mais en même temps, à chaque fois qu'il revient, il revient tout de même un cran au-dessous dans le trend du point de vue statistique, ce qui doit nous rendre un peu prudents sur ce terrain-là. Alors, il y aurait évidemment une explication psychologique à laquelle on pense spontanément. Les générations successives de catholiques pris dans une tendance baissière de longue durée, chaque génération se raconte que le religieux revient pour éviter de déprimer, d'une certaine façon, ou pour tenir la route psychologiquement. Et on est effectivement dans un domaine où il y a beaucoup d'impressions, où les impressions dominent et où il est difficile de savoir de quoi on parle exactement. Et derrière ces impressions, il y a souvent aussi des inclinations, des expériences personnelles, des préférences idéologiques. Les anticléricaux dansent la danse du scalp depuis 250 ans autour de la religion des feintes. D'autres, au contraire, à chaque frémissement des courbes, ont l'impression que, sinon le Christ lui-même, du moins le christianisme, revient. Et il est très difficile de savoir de quoi on parle exactement. Alors, si, je dirais, en sociologue, on essaye de clarifier un peu les choses, on s'aperçoit que quand on emploie cette expression de retour du religieux, ça recoupe ou ça recouvre généralement trois réalités différentes qui sont mêlées dans la pratique, mais qu'il est important, à mon avis, de distinguer dans l'analyse pour savoir exactement de quoi on parle et différencier ces différents retours. Alors, il y a une première réalité qui est quantitative. Un retour, ça peut être un retour quantitativement démontrable avec les indices de la sociologie religieuse, en l'occurrence pour le catholicisme, celle fondée par Gabriel Le Braz ou Fernand Boulard, la pratique dominicale, la pratique pascale, les taux de baptême, les enquêtes sur les taux de déclaration d'identité catholique. Bref, il y a moyen de suivre statistiquement, c'est un peu compliqué dans le détail, mais d'essayer de voir si le retour est quantitatif, si le retour se traduit dans les courbes. C'est évidemment la première manifestation possible de ce retour. Et de fait, pour qui connaît un petit peu l'histoire du catholicisme français du 19e et du 20e, il y a eu des retours, effectivement. Je dirais, là où on peut les mesurer, là où on a des statistiques pour le 19e siècle, je pense par exemple au diocèse d'Orléans, le diocèse de Monseigneur Dupanloup, la situation est meilleure en 1830 qu'en 1860, du point de vue de la pratique pascale, de la pratique dominicale. Là, il y a des redressements de courbes que l'on peut établir positivement. De même, dans les années 1930-1960, il y a une stabilisation de la situation. Il y a même, dans certains diocèses un peu détachés religieusement, des remontées légères de courbes. Ça, c'est des choses qu'on peut établir. Donc, il y a ce premier niveau qui est le niveau quantitatif. Mais sur l'appréciation du niveau quantitatif, il faut faire attention, je crois, à ce qu'on appelle les effets de seuil. C'est-à-dire, quand un léger retour se produit dans une société où le taux de pratique dominicale catholique est de 25% des adultes ou de 30% des adultes, quand un retour religieux se produit dans cette société-là, ça a des effets sociaux, on le sent. C'est palpable dans le paysage. Quand le même retour, j'allais dire la même proportion se produit alors que le taux de pratique est à 5% ou à 2%, comme c'est le cas aujourd'hui, les effets sociaux sont beaucoup moins visibles. Autrement dit, quand on passe sous une certaine barre statistique, il peut encore vous arriver des choses, vous pouvez avoir des retours religieux, mais plus personne n'en sait rien, sinon ceux qui connaissent le retour en question. Donc du point de vue de la perception sociale de ces mouvements, la question des effets de seuil me paraît importante. Deuxième réalité recouverte généralement par cette expression, on parle de retour parfois pour désigner des transformations qualitatives des différents cultes. C'est pas nécessairement un retour socialement quantitatif, mais des modifications internes des cultes, soit parce que ils se sont transformés, soit parce qu'en leur sein, des courants ont pris le dessus sur d'autres et que ça a modifié la composition interne de ces cultes. Autrement dit, on parle parfois de retour pour désigner des transformations internes de ces cultes, sans que pour autant il y ait de véritable retour social. En catholicisme, on a eu l'habitude ces dernières décennies de désigner ça par des générations successives, génération Jean-Paul II, génération Benoît XVI, génération François, qui correspondent effectivement plus ou moins à des modifications internes du groupe lui-même, sans que pour autant on ait vu les courbes se redresser de façon significative à la faveur de ces mutations. Donc transformation qualitative, c'est un deuxième visage de ces ressources, de ces retours possibles. Puis le troisième visage, je crois, c'est les transformations dans la visibilité sociale des cultes, qui est très variable. On peut avoir des retours invisibles et des mutations de cultes qui ont une visibilité sociale très forte. La visibilité sociale, c'est le bâti, les églises qu'on construit, que l'on reconstruit, que l'on rénove. C'est les habits sacerdotaux et religieux, la présence visuelle dans l'espace social de la religion. Pensez à nos discussions interminables sur le voile, la question du voile. Bon, donc la visibilité du bâti, des habits, le retour toujours très prisé des élites sociales, des milieux intellectuels, un événement médiatique du type enterrement de Johnny Hallyday, tout ça modifie, enterrement très catholique de Johnny Hallyday, tout ça modifie la visibilité sociale des cultes et assez souvent on inclut une part de visibilité dans cette perception des retours. Du coup, c'est très difficile de savoir à quoi on a affaire. Et je pensais, en préparant cette communication, à la situation présente où on a successivement, deux réalités qui se télescopent. D'une part, toute une série de livres qui sont sortis ces derniers temps, de livres et de films sur le catholicisme, sur l'identité catholique, sur les recompositions en cours de l'identité catholique, qui ramènent sur le devant de la scène une question qui était peut-être passée au second plan quelques années plus tôt. Donc ça, ce serait plutôt du côté du retour, d'une certaine façon. Et en même temps, vous l'avez peut-être vu comme moi, la publication ces derniers jours d'une étude assez glaçante sur la religion des jeunes Européens de 16 à 30 ans, qui dresse un tableau absolument étonnant et de sécularisation extraordinairement avancée. Parmi les 16-30 ans dans la société française aujourd'hui, il y a 24% de catholiques, 24% de catholiques déclarés parmi les 16-30 ans, 2% de protestants qui, de fait, ont maintenu, eux, leur taux, 10% de musulmans. On est dans un ratio quasi de 1 à 2 désormais entre jeunes catholiques déclarés et jeunes musulmans déclarés, et 64% de sans-religion. Et la France n'est pas dans la situation la pire en Europe. La République tchèque, c'est 92%. La Grande-Bretagne, les pays scandinaves, c'est 70-80% de sans-religion. Autrement dit, là, vous avez une réalité statistique qui est véritablement vertigineuse et qui contraste très fortement avec les impressions de surface que peuvent produire quelques publications, quelques livres, qui ne doivent pas, à mon avis, nous égarer. Alors, comme historien, je dirais deux choses. Je pense que sur cette question du retour, on peut avoir intérêt à la prendre à deux échelles de temps un peu différentes. Il y a d'abord le temps long depuis, mettons, la fin du XVIIIe siècle, depuis la Révolution française, deux siècles, c'est pas du temps long brodélien, mais c'est long quand même, et on peut voir apparaître des cycles, des phénomènes de retour. Et quand on regarde la littérature existante sur le sujet depuis 50 ou 60 ans, qui s'est développée dans le sillage des travaux de Gabriel Le Braz ou de Fernand Boulard, il y a en gros deux écoles. Vous avez toute une série d'historiens qui sont du côté, je dirais, d'un scénario de déclin lent et progressif, un peu insensible, rarement senti par les contemporains, mais s'accumulant d'années et en décennies. C'était au fond un peu la conviction du chanoine Fernand Boulard, qui est mort en 1977, qui avait conclu à l'existence d'une pente déclive en matière qu'on pouvait enregistrer sur le plan de la pratique religieuse, et conclu au fait qu'il ne se passait finalement pas grand-chose. Il n'y avait pas d'événement majeur dans ce genre de pente, simplement il y avait des phénomènes d'alignement progressif, des régions les plus chrétiennes sur les moins chrétiennes, des milieux les plus christianisés sur les moins déchristianisés, des femmes sur les hommes, des enfants sur les adultes, etc. Donc des phénomènes d'alignement par le bas, avec une progressivité d'ensemble. Et puis vous aviez une deuxième école d'historiens, qui sont eux aussi des boulardiens en un sens, mais des boulardiens de deuxième génération. Je pense à des gens comme Yves-Marie Hilaire et Gérard Cholvy, qui nous ont quitté l'un et l'autre ces dernières années, et qui ont eu beaucoup de disciples parmi nous. Et vous le savez peut-être, ces deux historiens du XIXe siècle insistaient beaucoup sur le fait que dans l'histoire contemporaine du catholicisme français, celui-ci était passé par des phases alternées de reprise religieuse et de déclin. Et effectivement, quand on remonte l'histoire diocèse par diocèse à partir de la situation qu'on connaît bien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'aperçoit très souvent de l'existence de ces phases. Je disais tout à l'heure, la situation était meilleure en 1830 qu'en 1860. Et ça explique en partie la perception d'un certain nombre de contemporains, puisque le trend d'ensemble, la tendance lourde sur deux siècles, personne ne l'a vécu. Tout le monde vit le trend par phase. Donc, vous avez une perception de l'évolution globale qui est liée à votre date d'entrée dans la tendance et quand vous avez 50, 60 ans ou 70 ans, à votre capacité à revenir sur la situation religieuse de la société française dans votre enfance ou dans votre jeunesse et à en tirer un certain nombre de conclusions. Ce qui explique pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Charles de Montalembert, le grand laïc catholique du milieu du XIXe siècle, dans « Des intérêts catholiques » qui date de 1852, se rappelant sa jeunesse en 1815-1820, trouvait que la situation était bien meilleure qu'elle ne l'était dans son enfance. De même, un texte célèbre de Gabriel Le Braz, 1963, « Déchristianisation, mot fallacieux ». Le texte date de 1963, juste avant le plongeon des courbes. Mais quand Gabriel Le Braz dit « Déchristianisation, mot fallacieux », c'est vrai pour lui. Il est né en 1895, il se souvenait de la France de 1905 dans son enfance, de la crise moderniste, et d'une certaine façon, la situation en 1963 était bien meilleure qu'elle ne l'était en 1910 ou en 1914. Donc, toujours ce souvenir, je dirais, pour l'historien qui est confronté à une diversité de témoignages et d'expériences, que chacun a un peu l'expérience de sa place dans la courbe. Étant bien entendu, par ailleurs, que comme les diocèses français ont une très grande diversité de situations, on a aussi l'expérience de sa place dans la carte. Hein. Donc l'un dans l'autre, ça permet de réduire un certain nombre de contradictions. Alors ces deux écoles d'historiens, ceux qui étaient plutôt du côté du déclin progressif et graduel et ceux qui étaient plutôt du côté de l'alternance de phases de prise et de reprise, me paraissent l'un et l'autre laisser dans l'angle mort certains aspects du sujet. La première, elle a tendance, à mon avis, exagérément à penser que les mouvements dans l'Église ne sont pas des mouvements dans la société. Or, pour qui s'intéresse au XIXe siècle, ou même encore à la première moitié du XXe siècle, quand il y a une reprise dans l'Église catholique, ça a des effets sociaux, ne serait-ce que parce que l'emprise sociale de l'Église catholique est très forte. Donc, même si elle a une mutation de l'ordre de 5%, ça se sent à l'extérieur. Donc j'aurais tendance à effectivement à considérer avec Scholvie et Hilaire qu'il y a eu effectivement des phases de reprise et qui n'étaient pas purement fictives, qui n'étaient pas de pure modification de la visibilité du catholicisme. En même temps, ce que ne voyaient pas bien Scholvie et Hilaire, vous savez qu'ils avaient publié une histoire religieuse de la France qui a eu un certain succès chez Privat dans les années 1980 et qui apparaissait dans leur contexte un peu comme la caution scientifique de la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait des phases de reprise, que généralement ces phases de reprise commençaient par une phase de réveil spirituel, et ils reprenaient au protestantisme cette expression de réveil, une phase de réveil spirituel, et que cette phase de réveil spirituel, dans un second temps, avait des effets statistiques. Et quelqu'un comme Gérard Scholvie était persuadé que l'Église de France, à la fois, était sortie de la crise post-conciliaire et avait connu un réveil spirituel profond à partir de 1975, et depuis attendait de voir la traduction statistique du réveil en question dans les courbes. Et périodiquement, on a vu une sorte de messianisme sociologique un peu latent, et en 1997 au JMJ, ça y est, c'était le redressement des courbes, ou même en 2012-2013 avec la manif pour tous, ça y est, c'était le retour enfin annoncé depuis le réveil spirituel de 1975. La limite, à mon avis, de la thèse de Scholvie et d'Hilaire, c'est qu'ils oublient le trend. Le trend, il est baissier. Et que leur phase de reprise se produise à l'intérieur de ce trend. Et que pour qui veut essayer de produire une théorie synthétique de ces phases de déprise et de reprise dans la longue durée, il faut essayer de penser ensemble trois choses différentes. L'existence de paliers de rupture, j'emprunte cette expression à Gabriel Lebras, c'est-à-dire des moments où ça casse. Là où il est censé ne rien se passer, ça casse moyennant des préparations souterraines, hein, ça casse pas sans raison, mais ça casse. La Révolution française, les années 60. Deux grands paliers de rupture avec des effets comparables sur la courbe en termes de pratique, en termes de proportion de pratique. Donc les paliers de rupture, l'existence de phases de reprise et de déprise, de cycle, et le trend, la tendance baissière. Et à partir de là, on peut, c'est du moins ce que j'ai proposé, essayer de reconstituer l'histoire contemporaine du catholicisme français comme une histoire encadrée par deux ruptures, la Révolution française, les années 1960, une révolution politique, une révolution culturelle et spirituelle, deux grandes ruptures, avec entre les deux un train de baissier, et à l'intérieur du train de baissier des phases de prise et de déprise. Et comme ça, je crois qu'on arrive à rendre compte de ce qu'on voit pour une part dans les archives. Ça, c'est le temps long, en quelque sorte. L'existence de ces phases de retour qu'on peut enregistrer, effectivement, mais qui pour autant ne stabilisent éventuellement la tendance, mais ne font pas repartir les courbes en sens inverse. Après, combien de temps me reste-t-il ? 5 minutes. Bon, je vais essayer de faire court. Alors. Pour ce qui est de la situation contemporaine, je dirais pour qui compare la situation la situation religieuse française d'aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a 50 ou 60 ans, c'est-à-dire, disons, mettons à la veille du Concile Vatican II ou au lendemain immédiat du Concile Vatican II en 65. Quand on compare un peu si on photographie, au fond, la société française du point de vue religieux à ces deux dates, et en ne retenant que les faits saillants, statistiquement les plus révélateurs, il y a, à mon avis, trois mutations majeures. La première, c'est le déclin statistique du catholicisme qui est très important. Je rappelle que en 1965, 94% de la génération dans ce pays, des 850 000 petits Français qui naissaient chaque année, étaient baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance, avec pic d'empressement au 2e et 3e mois. 94%. Aujourd'hui, c'est 30%. Bon, selon les chiffres qu'on trouve sur le site de la Conférence des évêques de France. En 1965, 25% des adultes allaient à la messe tous les dimanches, avec des taux qui, dans les campagnes françaises, variaient de 0 à 100. De 100 dans un bourg du nord de la Vendée à 0 à 200 km plus loin dans le Limousin. Donc la moyenne signifiait pas grand-chose. La moyenne à 25, il y avait des contrastes extraordinaires. 25%, la dernière enquête Ipsos publiée dans La Croix nous a appris qu'il y avait désormais 1,8% des Français qui allaient à la messe tous les dimanches. 25%, 1,8%. Donc le premier constat, c'est l'effondrement. C'est pour ça que je l'ai sans plaisir à sous-titrer mon bouquin comme ça. C'est l'effondrement statistique. On y reviendra dans la discussion. Statistique du point de vue de la pratique du catholicisme français. Deuxième constat que l'on peut faire, c'est la montée spectaculaire, et à mon avis, c'est le fait majeur, le fait saillant caché par l'affaire de l'islam. la montée de ce qu'on appelle dans les enquêtes américaines les nones, les non-affiliés, ceux qui ne se reconnaissent plus dans aucun culte et qui sont, je rappelais tout à l'heure les chiffres récents, 64% des jeunes Français de 16 à 30 ans qui ne se reconnaissent plus dans aucun culte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de vie spirituelle, bien sûr, et qu'ils sont tous incroyants. Mais là, il y a un phénomène de désaffiliation qui est absolument spectaculaire et qui explique en partie la demande de spiritualité contemporaine qui s'exprime à l'extérieur pour une part de ces cultes et qui est extraordinairement forte. Il suffit d'aller à la FNAC, de regarder ce qu'on vend dans les rayons entre la philosophie et la littérature. Il y a les trois amis en quête de sagesse que je me suis infligé comme lecture il y a 2 ans pour voir ce que mes contemporains lisaient, ont été vendus à 600 000 exemplaires. C'est-à-dire que Frédéric Lenoir vend ses bouquins à 600 000 ou 700 000 exemplaires. C'est-à-dire que c'est là que ça se passe. C'est là que la quête spirituelle des contemporains se passe quand elle ne se règle plus sur un plan strictement psychologique ou purement médicamenteux. C'est-à-dire que la psyché contemporaine a glissé littéralement. Et là, à mon avis, il faut relire Auguste Comte. Il est temps de relire Auguste Comte. Puisqu'Auguste Comte disait que l'âge positif, l'âge scientifique, serait aussi un âge spirituel. C'est très important. Auguste Comte savait que les besoins religieux ne disparaîtraient pas, qu'ils se transféreraient et qu'ils muteraient dans le transfert. Et ils sont parmi nous, ils sont autour de nous. Donc deuxième, à mon avis, tendance très forte, c'est l'entrée dans l'âge psycho-spirituel. Et ce qu'on ne voit pas dans les statistiques, c'est par exemple l'extraordinaire prégnance de tout un néo-bouddhisme diffus à tendance psychothérapeutique parmi nous, qui fait partie pleinement du paysage spirituel et qui est très important dans la vie de nos contemporains. Ça, c'est pas enregistré par les statistiques que j'ai citées tout à l'heure, mais ça fait partie de notre paysage. Et puis la troisième mutation, et tout le monde l'a à l'esprit, je serai plus rapide, c'est la montée de l'islam, qui est une religion qui est absente ou quasi absente du paysage au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui représente donc 10% des jeunes Français déclarés sur le plan religieux, avec des phénomènes de croisement des courbes de ferveur. Si on demande non pas aux gens ce qu'ils sont sur le plan religieux, mais qui attache beaucoup d'importance à sa religion après s'être déclaré musulman ou catholique, il y a désormais dans ce pays, c'est ce qu'a montré l'enquête Théo de l'INED en 2008, un peu malgré elle, parce que ce n'était pas son objectif, qu'il y avait désormais dans ce pays plus de musulmans que de catholiques fervents, en effectif absolu, ce qui est évidemment un événement majeur aussi dans notre histoire religieuse et dans notre histoire spirituelle. Alors je conclue avec la 30 secondes qui me restent, en disant que du point de vue de l'historien, alors je ne sais évidemment pas du tout ce que nous allons devenir demain ou après-demain, même si on peut prolonger nos courbes par hypothèse, et dans l'hypothèse où rien ne viendrait les bouleverser dans un temps court. Mais du point de vue de l'historien, ces retours dont on parle beaucoup depuis Chateaubriand, parmi nous dans l'histoire du catholicisme français, force est de constater qu'ils correspondent plus à des transformations internes du catholicisme qu'à de véritables retours dans la société française, compte tenu du fait que la tendance lourde, elle, n'a jamais été inversée. Et il y a quelque chose d'un peu irréversible dans ce spectacle que donne la courbe depuis la fin du XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Guillaume Cuchet pour toutes ces analyses très riches et très balancées, très nuancées, qui nous amènent à relire chacune de vos affirmations à la lumière du courant qui la porte ou qui au contraire la déporte par la suite. Je rappelle que ce mardi d'éthique publique est consacré au retour du religieux, que nous accueillons le pasteur Jean Arnold de Clermont et Guillaume Cuchet avec François Huvé, rédacteur en chef de la revue Études, partenaire de ces mardis d'éthique publique. Si je peux me permettre, monsieur le pasteur, une question au président de l'observatoire Pharos, parce que Guillaume Cuchet vient de donner des chiffres sur l'Europe et sur l'affiliation religieuse en Europe, qui semblent confirmer les thèses qui ont été développées par Peter Berger ou Grace Davy, selon lesquelles il y aurait une sorte d'exception européenne en matière religieuse, de non-affiliation. Est-ce que de l'observatoire que vous présidez, la vision du reste du monde montre au contraire une permanence? Berger parle d'un monde qui n'a jamais été aussi furieusement religieux.
Juste une précision, l'observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions s'intéresse plus au pluralisme qu'à la question de savoir si les religions sont en hausse ou en baisse, ici ou là. Donc je parle à titre d'expérience personnelle Et je réponds à votre question en vous disant la chose suivante. Quand je vais en Afrique, j'ai beaucoup été ces 20 dernières années. À chaque fois que j'ai rencontré des amis très engagés dans la vie des églises, je leur ai signalé l'inévitable décroissance potentielle de leurs églises. Sous deux effets. Le premier, celui que nous connaissons, c'est-à-dire celui de la méfiance à l'égard des institutions. Pourquoi auraient-elles plus de respecteront plus les institutions en Afrique que nous ne les respectons en Europe aujourd'hui, et sous l'effet de l'individualisme croissant qui fait qu'aujourd'hui le mouvement évangélique pentecôtiste est en Afrique croissant à une vitesse exponentielle au Nigeria, en République démocratique du Congo, mais dans la plupart des pays, au détriment des églises. Et je leur dis, à chaque fois, soyez vigilants sur cette question-là, car c'est ce que m'inspirait d'ailleurs l'écoute de Guillaume Cuchet. La réponse, c'est quelles églises avons-nous qui soient capables de porter les convictions individuelles des uns et des autres et les quêtes spirituelles des uns et des autres. Et c'est le décalage entre cette quête spirituelle des uns et des autres et ce que sont nos églises, on pourra préciser ça tout à l'heure, qui fait qu'il y a rupture et de nombreuses ruptures. Et à chaque fois, j'ai eu cette réponse qui me semble d'une naïveté exceptionnelle, l'homme africain est religieux. Que dire devant cela? Que dire devant cela? Oui, peut-être que nous avons une exception européenne, l'homme, excusez-moi, et la femme, européen, ne serait pas religieux. Je ne crois pas cela. Je ne le crois pas. Et je pense que l'Église protestante, allez, je ne vais même pas me mêler des autres, les églises protestantes en Afrique sont menacées exactement du même désamour institutionnel que celle que le désamour que nous avons connu dans nos propres pays. Mais ce n'est pas l'Observatoire Pharos, ça c'est moi.
Guillaume Cuchet, vous voulez réagir?
Non, mais c'est vrai qu'il y a cette grande question que tout le monde se pose, de savoir si ce qui nous arrive en Europe est une exception ou si ça a vocation à se généraliser à moyen terme, sachant qu'on a le coup d'avance et qu'ils y viendront tôt ou tard. Alors, c'est un peu difficile à assumer de but en blanc parce qu'on a l'air de faire de l'eurocentrisme tranquille en disant « mais vous y viendrez aussi, Dieu est mort, mais vous n'êtes pas encore au courant ». Mais au fond, il y a deux thèses. Il y a la thèse de l'exception européenne, qui a beaucoup d'éléments empiriques, visuels, qui va en son sens. Et puis, il y a les thèses néo-positivistes, du type Gauchet, qui consistent à dire l'Europe fait, avant tous les autres, des expériences pionnières en matière spirituelle, une expérience post-religieuse, mais pas post-spirituelle. C'est-à-dire qu'elle est en train de sortir des religions organisées et d'aller vers une sorte de combinaison avec une part de psy, une part de sport, une part de médicaments et une part de spiritualité consommée en livres. Et ça peut suffire pour saturer l'horizon, au moins pour la vie normale, parce qu'évidemment le test c'est les grandes épreuves, où là ça peut ne pas être tout à fait à la hauteur des enjeux. Donc il y a la thèse de l'exception européenne, et puis la thèse, je dirais, au contraire, du caractère pionnier de l'expérience européenne. Et quiconque a eu l'occasion de faire des conférences ou des cours devant des auditoires multiculturels, comprenant à la fois des Occidentaux, des Africains, des Asiatiques, je pense au cours de l'Institut catholique de Paris, moi ça m'est arrivé. On voit bien, ça m'est arrivé très souvent d'avoir le sentiment, quand je leur parlais des problèmes du catholicisme français des années 50, de voir dans leur œil une lumière s'allumer. Je leur parlais d'eux-mêmes, d'une certaine façon. Je leur parlais de leurs problèmes d'aujourd'hui. Et forcément, que l'étape suivante du raisonnement venait à leur esprit tout de suite, c'est-à-dire si au fond ils en étaient là hier et qu'ils en sont là aujourd'hui, nous en serons là demain. Sauf à à aller dans la dénégation qui consiste à dire « mais non, on en fera l'économie parce que nous, on est foncièrement religieux et nous avons une autre histoire. Vous, vous avez une voie particulière, la sonde d'Orweg à l'européenne, mais on y échappera. » Bon, je ne tranche pas, mais j'ai quand même envie de penser effectivement qu'il y a des expériences pionnières, il y a des expériences dont on ne peut pas faire l'économie. Et dont chacun fera l'économie d'une manière ou d'une autre. Beaucoup parmi nous sont en deçà de cette crise, ne l'ont pas encore entendu à l'intérieur d'eux-mêmes, et quand ça va se produire, ça produira probablement les mêmes effets.
Bien, merci beaucoup Guillaume Cuchet, merci à nos deux intervenants pour cette présentation de leur réflexion très riche sur le thème qui nous réunit ce soir. Le retour du religieux, l'éternel retour du différent. C'est un jeu de mots qui a été tenté par rapport à Nietzsche, mais effectivement, ce différent, il semble bien là. Si le retour il y a, ce n'est pas le retour du même, mais le retour du différent. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention.
Alors je rassure ceux qui s'inquiètent, c'est pas la fin de la soirée, mais c'est la fin de l'émission. Voilà, donc nous sommes maintenant hors antenne, vous pouvez tenir les propos que vous voulez, ce ne sera pas enregistré. Donc nous allons donner la parole à la salle pour ce temps de débat. Je ne sais pas si on commence par la question de Bordeaux, non? Voilà, alors nous commençons traditionnellement par la question qui nous vient de Bordeaux.
Alors, dans la question de Bordeaux, il y en a plusieurs, mais la première, c'est « Dans les choix politiques, les acteurs religieux gagnent-ils en influence au cours des dernières années, notamment sur le plan éthique ?»
Alors, qui s'attaque à cette question ?
Vous pouvez répéter la question, oui, François.
Alors, dans les choix politiques, les acteurs religieux gagnent-ils en influence au cours des dernières années, notamment sur le plan éthique ? Voilà. On gagne en influence.
L'influence politique des acteurs religieux sur le plan éthique.
Je ne sais pas si vous... Non, je suis historien. Mais, bon, là, il faudrait un sociologue.
À défaut de sociologue, prenons un historien.
Ça ne me paraît pas évident, puisque le dernier test, c'est la manif pour tous en 2012-2013, et que paradoxalement, ça a été à la fois un succès en termes de mobilisation et un échec politique. Ce qui est significatif d'ailleurs, parce que le point de comparaison, ce serait les manifestations pour l'école libre en 1984, succès en termes de mobilisation et succès politique. Là, sur ce terrain de la morale privée, des problèmes éthiques, même si, comme à l'accoutumée, on nous a un peu tronçonné la mutation et on nous fait avaler les morceaux de la couleuvre morceau par morceau, ce qui nous a facilité la digestion de la première étape. Le fait est que ça me paraît significatif que cette énorme mobilisation n'ait pas obtenu de résultats très manifestes.
Oui. Alors là, nous parlons de la France et c'est très clair. C'est vrai que lorsqu'on tourne ses yeux vers les États-Unis, on a vraiment le sentiment que des lobbies religieux, évangéliques, travaillent au corps un certain nombre de sénateurs et sont en mesure non seulement de les faire élire, mais de les tenir en laisse par la suite. Lorsqu'on tourne les yeux vers l'Afrique, je pense le Nigeria, particulièrement aujourd'hui, je pense à un peu le Cameroun, beaucoup la RDC. On voit des milieux évangéliques qui ont des prétentions à jouer un rôle politique. C'est beaucoup plus contesté, mais il y a une véritable étude, notamment venant des milieux de Bordeaux, où il y a une école historique bordelaise qui travaille sur ces questions-là et qui se préoccupe de savoir le rôle que les milieux évangéliques pourraient jouer dans l'avenir dans l'Afrique contemporaine.
Merci. Alors, maintenant, c'est Paris qui a accès. Alors, qui pose la première question ? Le propos est tellement riche et varié qu'il y a trop de questions à la fois. Donc, alors, une main se lève, voilà, au deuxième rang. Le micro vous arrive de votre gauche. Ça marche, allez-y.
Oh, ça marche, oui. Donc on dit toujours que la religion institutionnelle décline, mais qu'elle serait remplacée par une spiritualité plus intime et plus diffuse. Mais est-ce que cette spiritualité moins institutionnelle, on est capable de la mesurer, de dévaluer son importance? Voilà. À quel degré ça mobilise les gens, peut-être en fait, qui sont davantage mobilisés par ça aujourd'hui qu'en 1780.
Merci. Donc, nous n'avons pas non plus sociologue, mais nous avons un historien qui aime les chiffres.
Alors, comment peut-on la mesurer? Cette spiritualité contemporaine, c'est, je dirais, des livres et des sessions et des stages. Les livres, ça se mesure. J'évoquais tout à l'heure les best-sellers contemporains, y compris, j'allais dire, soit dans le domaine de la spiritualité, soit dans le domaine de la psychologie. Il suffit d'aller à la FNAC et de regarder le volume des bouquins de psychologie, avec toutes les déclinaisons possibles et imaginables, psychiatrie, psychanalyse, développement personnel, psychologie des enfants, etc. Vous avez toute une série de compartiments. En volume, j'avais fait de l'expérience, j'avais fait un petit texte là-dessus sur la FNAC Montparnasse, où j'avais été voir le volume du rayon religion, le volume du rayon psychologie, pour voir la topographie de la psyché contemporaine, c'est-à-dire où on était passé. Et le volume psy, les rayons psy, pesaient 4 à 5 fois plus que les rayons religion, toutes religions confondues. 4 à 5 fois plus. Le rayon ésotérisme, c'est-à-dire ce que les libraires appellent ésotérisme, c'est tout ce qu'ils ne savent pas classer entre la psychologie et la religion. Mais c'est quand même une indication. C'est-à-dire que l'existence de cette littérature intermédiaire et le rayon ésotérisme pesait autant que le rayon religion. Et entre le rayon psy et le rayon ésotérisme, il y avait le rayon développement personnel qui sert d'échangeur autoroutier, qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors, c'est spectaculaire de voir ça. Parce que là, pour le coup, on a un paysage. Et on peut compter le nombre de bouquins, etc. Alors, et si vous y ajoutez effectivement les tirages, vous avez quand même une indication, ces tirages fabuleux de je pensais à Frédéric Lenoir, il faudra faire une thèse sur Frédéric Lenoir demain. C'est un personnage à lui tout seul, avec son histoire personnelle et le succès de ses livres, qui est très révélateur, par ses déplacements de la psyché contemporaine. Alors après, elle est un peu diffuse, parce que comme elle n'est pas institutionnalisée, cette spiritualité, elle a moins d'effets sociaux, parce que, je dirais, la visibilité sociale de cette spiritualité n'est pas très forte, le potentiel altruiste, tout ce que ça peut générer comme engagements sociaux est moindre. Donc, je veux dire, on est perdant au change, de troquer la religion contre la spiritualité, parce que la société est perdante au change, parce que ça ne génère pas des engagements dans la société. Mais il y a quand même moyen de la mesurer. Et à mon avis, les historiens du religieux contemporain doivent s'emparer de cet objet. C'est-à-dire qu'il faut suivre son objet dans ses transferts, y compris ces transferts post-religieux. Ça n'amuse personne, parce que il faut se l'avaler, cette littérature. Hegel disait, on mesure l'étendue de la perte d'un esprit à ce dont il se contente. Moi, je pense souvent à ça, quand de passer de Bossuet à ça, je trouve quand même c'est un peu rude. Mais quand même.
Mais juste pour compléter, dans cette littérature que vous apprêtez à lire ou vous suggérez qu'on lise, il faut ajouter la Bible,
oui,
qui reste, toute littérature confondue, l'ouvrage le plus vendu dans toutes ses versions nouvelles, modernes, retraduites, etc., de ces dernières années. Et en France, ce qui est, on ne peut plus, sidérant.
Merci. Alors, question, oui, voilà, derrière. Ah ben oui, pardon. Très bien, vas-y.
Simplement pour dire, j'ai été assez perplexe devant les deux sondages ou enquêtes sur les jeunes qui sont parus récemment. L'un a été évoqué par vous-même il y a un instant en disant ça, en France, car 23 ou 24% de catholiques. Et le même jour, quasiment, ou le lendemain, dans La Croix, une autre enquête disant bon, on est à 40, si ce n'est 50%. Alors, sans doute, je suppose que les questions n'étaient pas exactement les mêmes, mais l'effet produit. Vous avez dit, oh, mais c'est absolument glaçant comme résultat, tout à l'heure. Et dans l'autre, c'était, oh, la situation n'est pas du tout aussi désespérée qu'on pourrait le croire, il y a un renouveau. Et en fait, le lecteur un peu rapide, il retient ça. Mais que se passe-t-il pour avoir deux enquêtes aux résultats si différents?
Alors, il faut regarder la base d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, habituellement, dans les enquêtes contemporaines, quand on pose la question aux Français dans la rue de savoir ce qu'ils sont, tout âge confondu, il y en a une petite moitié qui continue de répondre qu'ils sont catholiques. De temps en temps, on vous dit 45, de temps en temps, on vous dit 50, de temps en temps, on vous dit 55. C'est variable. Mais on est en gros à 50. Là, ce qui est intéressant dans ces enquêtes, mais j'ai pas eu le temps de regarder ça très précisément. Je l'ai vu comme tout le monde. Mais j'ai bien l'intention d'y revenir. Mais ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'il s'agit des jeunes de 16 à 30 ans. Donc, de ce que sera le taux global, a priori, sauf si d'ici là l'histoire a redistribué les cartes, de ce que sera le taux global demain ou après-demain. C'est pour ça que si on cherche à prolonger un peu nos courbes, moi j'ai tendance à dire que le catholicisme français n'est pas au bout de sa réduction sociologique. Il l'est probablement en termes de pratique dominicale. À mon avis, on arrive à l'étiage là. D'abord parce que dessous c'est zéro, hein, donc. Mais pas seulement, parce que je crois que le catholicisme rural populaire a quasi disparu. Il a quasi disparu, donc il n'y a plus qu'un catholicisme à la fois bourgeois, d'une part, et d'immigrés, des paroisses populaires. Et c'est les deux pôles sociologiques de ce catholicisme moderne. Et entre les deux, le gros de la société française a disparu, c'est-à-dire les couches populaires autochtones et la petite bourgeoisie, c'est terminé. Ils sont très sous-représentés, en tout cas, dans le dispositif. Donc j'ai tendance à penser qu'en termes de pratique dominicale, on n'est pas très loin de la stabilisation avec une pyramide des âges saines, un milieu qui est étroit, qui risque, c'est-à-dire le catholicisme peut dans l'opération devenir une religion de classe, par exemple, une religion de la bourgeoisie, ou d'une certaine fraction de la bourgeoisie, parce que bien sûr, c'est pas la totalité de la bourgeoisie. Mais en termes d'identité déclarée, je pense qu'on n'est pas au bout de la réduction, parce que précisément, s'il y a 23% des jeunes qui se déclarent seulement qui se déclarent catholiques aujourd'hui, mais 50% des Français dans leur totalité, alors on a encore de quoi perdre 25%, si vous voulez.
Juste pour compléter, si je me souviens bien, c'était un sondage auprès des jeunes qui était reproduit par La Croix du lendemain. Donc,
alors là, ça, je n'ai pas, ouais, pas vu ça.
C'est un peu curieuse.
D'accord.
C'est que... Et l'article de La Croix faisait une différence entre une enquête qui sélectionnait quelque sorte des jeunes et un sondage peut-être plus auprès d'un échantillon plus large. Mais enfin, il faudrait comparer les deux pour voir si effectivement les catégories sont bien comparables. Mais la différence des chiffres était de 1 à 2. Donc
là, il y a un problème. C'est pour ça que le chanoine Boulard se méfiait comme de la peste des sondages. Il disait il ne faut pas faire de sondages, il ne faut jamais regarder les sondages, il faut faire des enquêtes, il faut compter les gens. Et il faisait ça, il a fait ça pendant 30 ans, effectivement.
Voilà. Alors, une question juste derrière, oui, voilà.
Monsieur Cochet, dans votre livre, vous parlez de l'année 1965 comme une étape dans le déclin. Certains en tirent la conclusion que c'est aussi l'année de la fin du Concile.
Eh oui, je me suis fait des nouveaux amis d'ailleurs dans l'opération. Alors, bon, c'est une vaste question et je dirais simplement en deux. Bon, c'est un peu un autre sujet, mais l'idée du livre, c'est pas une idée d'ailleurs, c'est un constat que j'ai fait après Boulard. J'avais pas d'idée préconçue, hein. Je suis entré dans le dossier, dans les archives Boulard, dans les papiers Boulard, qui a été expert au Concile, et qui était un homme très central dans le dispositif ecclésial de son temps. Et Boulard, en gros, après avoir conclu de 20 ans d'enquête à la stabilité globale des taux dans la longue durée en disant « il se passe jamais rien dans cette histoire, il y a une pente, des cliffs, c'est un peu déprimant, mais en même temps, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise », il conclut ça, en gros, au milieu des années 60, et au moment où il dit ça, à partir de 66, 67, un certain nombre de ses correspondants dans les diocèses lui écrivent et lui disent « monsieur le chanoine, ça plonge, il se passe quelque chose ». Et là... c'était très contre-intuitif pour lui, hein, parce que ça prenait à revers complètement toutes ces certitudes scientifiques acquises à juste titre sur la base de l'étude des enquêtes des années 45-65. Et du coup, c'est un homme d'une très grande honnêteté intellectuelle, très grande rigueur. Moi, j'ai appris à beaucoup admirer le chanoine Boulard en travaillant dans ses archives. Et il a repris le collier et il a remis ses certitudes sur l'établi. Et il a mené une enquête sur ce qui était en train de se passer en temps réel. Il était très informé parce qu'il avait des correspondants partout, dans tous les diocèses. Et il en a conclu la chose suivante, c'est que, il a tiré plusieurs conclusions, mais sa première conclusion a été de dire, on dit beaucoup que c'est la faute à 68, déjà, de son temps, on était à la fin des années 60, début des années 70, et c'est la faute à 68, les catholiques de droite disent c'est la faute aux événements de mai, les catholiques de gauche disent c'est la faute à Humanevitae, en gros, chacun a son explication fétiche, et Boulard dit, ben, le problème, c'est qu'en fait, ça plonge en 65, 66... bon, après, il a une hésitation sur les deux années, 65-66. Donc, 68, quel qu'en soit le visage, a amplifié une rupture qui, elle, date du milieu des années 60. Et à ce moment-là, il s'agit de savoir ce qui a pu produire cette rupture dans une histoire où il est censé ne jamais se produire de rupture. C'est quand même, il faut un événement pour qu'il se produise une rupture de genre. Donc, forcément, qu'à ce moment-là, le regard se tourne vers le concile, qui est le seul événement religieux contemporain qui soit susceptible d'en rendre compte. Quoi dans le concile? Alors c'est évidemment toute une affaire. Est-ce que c'est ces textes? Est-ce que c'est l'interprétation de ces textes? Est-ce que c'est la manière dont ils ont été appliqués? Est-ce que c'est les effets indirects d'ébranlement sur le catholicisme contemporain de l'événement conciliaire? Là, il y a toute une discussion à avoir. Mais la thèse que j'ai défendue, et à partir des constats de Boulard et validée par des enquêtes complémentaires, a consisté à dire, j'ai tendance à penser que le concile a déclenché la rupture, mais ne l'a pas provoqué au sens où, sans lui, la rupture n'aurait pas eu lieu. La rupture aurait eu lieu parce qu'elle a eu lieu dans les pays de culture protestante majoritaire, elle a eu lieu chez les protestants français au même moment. Donc, la rupture se serait produite. Mais, dans le catholicisme français de ce temps, elle avait été en quelque sorte contenue, bridée, et le concile fonctionne comme un déclencheur, et en même temps, lui donne une intensité particulière. À la mesure, d'ailleurs, de la manière dont elle avait été contenue en amont. Ça fait un peu penser, mutatis mutandis, à la thèse d'Alexis de Tocqueville sur la Révolution française. Dans ce livre extraordinaire qu'est l'Ancien Régime et la Révolution, la conclusion de Tocqueville est de dire, au fond, avec les États généraux, Louis XVI a déclenché, avec cette réforme que sont les États généraux, Louis XVI a déclenché la révolution qu'il prétendait éviter. Et bien, c'était un peu de cet ordre-là. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Et j'ajoute pour terminer que ce qui m'a paru décisif, c'est moins la question liturgique qui a obsédé la discussion et qui nous a pas aidé, à mon avis, à comprendre véritablement ce qui se passait, qu'un phénomène que l'on mesure mieux quand on voit les enquêtes des années 50. C'est-à-dire on prend la mesure de l'importance de cette culture de la pratique obligatoire sous peine de péché grave, qui était quelque chose d'extraordinairement structurant dans la mentalité catholique. Et dans les années 50, quand on interroge les gens, un certain nombre d'entre eux disent « Écoutez, oui, on va à la messe parce que c'est obligatoire. L'Église l'exige au titre des commandements de l'Église. Donc on y va parce qu'on est des bons catholiques. Mais si demain, l'Église cesse de l'exiger, alors on s'en dispensera ou on fera autre chose, ou on validera notre christianisme d'une autre façon. » Et je crois que l'événement décisif, c'est la sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché grave et le fait que désormais le sens de la pratique est évalué différemment, relativisé, un peu à la protestante d'ailleurs, et relativiser, c'est moins central. Dieu ne tient pas la comptabilité des excuses canoniques tous les dimanches pour savoir qui est là et qui n'est pas là. On commence à faire passer ce discours et ça produit un effet de décompression collective sur le système qui est très fort, surtout sur la catégorie qui était la plus captive, c'est les jeunes. Puisque c'est l'autre conclusion de Boulard, c'est de montrer que dans un premier temps, au milieu des années 60, c'est les jeunes, c'est-à-dire les baby-boomers, qui décrochent en masse.
Une réaction?
Oui, je vais faire de la provocation protestante. Je vous préviens tout de suite. D'abord en disant, peu importe le chiffre exact, 20% de jeunes qui expriment une conviction individuelle chrétienne dans le monde contemporain, c'est quand même pas négligeable. C'est même assez remarquable. Qui nous a mis dans la tête qu'il faudrait que ce soit 80%. Qui nous a mis dans la tête que l'Évangile serait tellement évident que 80% de nos contemporains devraient y adhérer sans question? Donc la question aujourd'hui me semble essentielle de savoir comment nos églises vont être en mesure de souffler sur cette braise pour qu'elle s'entretienne. Et là, effectivement, c'est là ma provocation, je vous trouve terriblement catho dans la mesure où l'obsession, c'est la pratique dominicale. La comptabilité, c'est la pratique dominicale. Les statistiques, c'est la pratique dominicale. Je ne dis pas que la pratique dominicale est inutile, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus officiellement, je pense que la pratique communautaire soutient la foi individuelle, et que la foi individuelle, elle a besoin de ces supports. Mais, que dites-vous des communautés de maison? Que dites-vous des tout petits groupes qui se réunissent, communautés plus ou moins charismatiques, plus ou moins écuméniques, qui se réunissent, qui ne vont pas le dimanche à la messe, mais qui sont pour autant des pratiquants réguliers à leur manière? Alors la question qui pour moi se pose, c'est une question qui traverse le protestantisme à l'heure actuelle et qui fait que peut-être il tient la route parce qu'il se pose la question. En face de cette quête spirituelle, quelle doit être notre parole d'Église? La parole de l'Église institution, Église protestante unie de France aujourd'hui, si vous écoutez son langage, elle dit « parole de liberté ». La foi appelle à la liberté du chrétien dans le monde. En face de cela, vous avez la parole d'autorité typique des communautés évangéliques qui disent « la foi exige une morale individuelle, une solidité charpentée, la lutte contre les imperfections du monde, la manif pour tous, etc. etc. » Moi, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Mais je ne veux pas dire qu'ayant fait moi le choix de dire que dans ma parole publique de chrétien, j'appelle d'autres au nom de l'Évangile à une foi qui exprime une liberté du chrétien dans le monde, je dis pour autant, je néglige ceux qui disent parole d'autorité. Car je reconnais que dans un monde incertain, et alors ça c'est typiquement européen, dangereux, sans aucune certitude sur l'avenir, la capacité de se retrouver en communauté, soudée sous une parole que moi je récuse parce qu'elle est parole d'autorité, mais qui n'empêche, tient cette communauté soudée, est une parole extrêmement importante. Et je pense que nous avons à nous poser ensemble cette question, quelle parole avons-nous pour soutenir ces convictions spirituelles individuelles, aussi imparfaites soient-elles?
Merci. Alors, nous avons une question du côté droit de la salle.
Je voudrais poser deux questions. Alors, première question, j'ai l'impression qu'on a peu parlé... Pardon.
Là-bas. Oui. Voilà.
J'ai l'impression qu'on a peu parlé de la rupture de 1905, qui me paraît, pour ma part, la fin du constantinisme... Le découplage du politique et du religieux, qui fait peut-être, enfin, il y a du bruit à l'époque, mais les effets de 1905, ça va durer tout le XXe siècle quand même. Je trouve que, oui, c'est la fin du Concile de Trente, c'est la fin du prêtre tridentin, et on va passer de l'antimodernisme au Concile Vatican II. J'aimerais bien qu'on parle de 1905. Ça me paraît la vraie cassure du trône de Bessier. Première question. Alors, deuxième question, moi je rejoins le pasteur Jean-Arnold de Grammont-Tonnerre.
Centenaire.
Pardon excusez-moi, Jean-Arnold de Clermont, pardonnez-moi.
Dominicain, bon, je vais le protéger.
C'est juste un éclair dans ma pensée. Non, c'est quelles églises, je reprends la question du pasteur, quelles églises avons-nous qui soient capables de porter les quêtes spirituelles des uns et des autres? Et j'aimerais bien voir une église qui ne soit plus tridentine.
Alors, sur 1905, ça fait partie, 1905, de ces paliers de rupture, même si, au vu des deux grands paliers d'amont et d'aval, la Révolution française et les années 60, statistiquement, c'est un palier secondaire. C'est-à-dire que c'est un palier, sur le plan de la pratique, sur le plan des ordinations, c'est un palier comparable à 1880, c'est-à-dire le moment où la Troisième République est vraiment devenue républicaine et où elle a commencé à appliquer son programme laïque de façon beaucoup plus radicale que même pratiquement qu'en 1905, hein, c'est l'école républicaine, les cimetières laïcisés, les hôpitaux laïcisés. Là, il y a vraiment un programme très volontariste qui est mis en œuvre à ce moment-là. Mais donc, c'est un palier important, effectivement, mais c'est plutôt un palier secondaire avec des effets différents. On sait que les ordinations sacerdotales, par exemple, plongent, et puis elles remontent après, et la pratique a un destin un peu différent. Alors, moi, je ne dirais pas constantinisme ou tridentinisme, parce que ça, je dirais, c'est probablement du vocabulaire homologué dans la tradition théologique, mais pour nous, historiens, ça ne nous aide pas à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, constantinisme, pour comprendre 1905. 1905, c'est la fin du financement public des cultes. C'est ça. D'abord.
Et c'est une loi de liberté pour les cultes non catholiques.
Et c'est... Oui, mais c'est une loi de liberté pour tout le monde, d'ailleurs. Les cardinaux verts le pensaient aussi. Donc 1905, il ne faut pas non plus en faire la pierre miliaire de l'idée laïque, en ce sens que c'est d'abord une loi qui met fin au financement public des cultes. Vous savez, si les républicains laïcs ont attendu 1905 et pour séparer l'Église de l'État et pas 1880, c'est que quand, une fois parvenus au pouvoir, ils ont découvert les intérêts du Concordat. Et ils ont hésité à enclencher la séparation, à la fois parce qu'ils se demandaient si la société française était prête pour cette séparation, mais aussi parce qu'ils avaient peur de perdre la main sur l'Église catholique, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer devant le Conseil d'État un évêque avec qui on n'est pas d'accord, de fermer le traitement d'un prêtre qui crée des ennuis localement. C'est la libération de l'Église plus que de l'État, la loi de séparation de 1905, hein, qui du coup va passer d'autant plus sous la coupe du pape. Mais ça, c'est une autre affaire, mais... Donc
c'est la fin d'une emprise politique de l'Église.
Non, c'est la fin sur le plan de l'autorité du clergé aux yeux du petit peuple. Le curé de paroisse a cessé d'être un fonctionnaire éminent localement. Donc ça nuit à son statut et à son autorité. Mais l'Église depuis 1879 perd toutes les élections législatives. Les catholiques ont perdu toutes les élections législatives depuis 1877, jusqu'en 1914, inclus. Les catholiques sont les vaincus éternels de la Troisième République. De là à nous expliquer qu'ils étaient aux manettes dans cet État laïque qui a séparé l'Église et l'État en 1905, c'est le contraire qui est vrai. C'est le contraire. C'est-à-dire, c'est pas du tout... l'Église catholique, au fond, n'avait, d'une certaine façon, en dehors du traitement public du clergé, l'Église catholique n'avait en un sens qu'à se plaindre, en dehors de l'autorité que ça aussi donnait au clergé, de cette union. Il faut vraiment, la loi de 1905, c'est la fin du financement public des cultes, c'est pas autre chose. Non, c'est pas... Techniquement, dans la loi, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Sur le plan symbolique, c'est pas pour rien que Pilis était contre, hein. Ben pour rien, effectivement. Sur le plan symbolique, Pélisse s'est dit l'autorité du clergé est rehaussée par l'autorité de l'État. Et dès lors que les deux seront dissociés, dans la tête des populations, le statut du clergé va plonger. Bon. Et ça n'a pas raté, parce que là, du coup, effectivement, dans la courbe des vocations, il y a eu un plongeon spectaculaire, mais rattrapé, au bout de 15 ans, 20 ans.
Mais alors, il y avait une deuxième question.
C'est quelles églises face à la...
Ah oui. Quelle réponse?
Je faisais que répéter la question du pasteur.
Est-ce qu'on laisse la question ouverte?
Ah oui, non, mais c'est une question pour vous. Hein. C'est vous, enfin, vous ou pas, hein, mais c'est, l'Église, c'est nous qui la ferons, hein, et qui aurons à penser cette question.
Donc, la réponse sera dans la salle. Alors, il y a une question, je n'ai pas vu les mains qui se lèvent dans le fond. Oui, voilà, il y en a deux, donc commençons, je ne sais pas quelle heure il est.
Oui, je crois que l'analyse qui est faite du déclin est incontestable, mais est-ce qu'on est bien clair sur les causes de ce déclin, et est-ce qu'on a un peu une idée de ce qui revient au dogme, c'est-à-dire que est-ce que les gens croient encore à ce à quoi nous croyons? Et ce qui revient à la communauté, est-ce que les gens veulent faire partie ou non de cette communauté d'église? Enfin, moi, je pense d'abord à l'Église catholique. Il y avait avant des modèles pour la société, et il peut y avoir aujourd'hui des repoussoirs. Donc est-ce qu'on a fait la part des choses entre ce qui revient de la foi proprement dite et de la vie chrétienne?
Alors prenons la deuxième question, oui, dans la série.
J'avais une question plus simple, c'est est-ce que la courbe d'évolution des vocations sacerdotales et religieuses est parallèle, anticipe la courbe de l'évolution de la pratique religieuse?
Alors, oui, la crise des vocations, comme on l'a nommée, si ça vous intéresse, il y a un article extraordinaire qui a été publié dans la revue Études en 1968 par un très grand historien contemporain qui s'appelle Dominique Julia, qui est un monsieur discret mais un très grand savant. Et Dominique Julia a publié en 1968 un article qui n'a rien à redire.
67.
Voilà, sur la crise des vocations. Et qui en a proposé une analyse, moi, qui me paraît être aujourd'hui encore tout à fait valable. Mais ce qui est sûr, c'est que les ordinations avaient commencé à baisser avant le concile, puisqu'en gros, en 1950, il y a à peu près 1000 à 1100 ordinations sacerdotales par an, et qu'en 1962, il y en a déjà 600. Donc on a déjà perdu 500, si vous voulez, dans les 10 ou 15 ans qui ont précédé. Ensuite, on va passer en gros de 600 à moins de 100 au milieu des années 70. Là, il y a à nouveau une chute vertigineuse. Mais je dirais, le concile, c'est déjà un problème du concile, les vocations sacerdotales. Et si vous lisez, par exemple, le texte conciliaire sur la formation du clergé, c'est déjà central dans ce texte. Où on se dit comment on peut faire pour redresser la courbe. Alors, l'un des problèmes fondamentaux, c'est l'un de ces problèmes posés par le texte, c'est la disparition des vocations d'enfants. C'est-à-dire le fait qu'au début des années 60 encore, les trois quarts du clergé français étaient issus de vocations d'enfants passées par les petits séminaires, c'est-à-dire de vocations qui s'étaient décidées entre monsieur le curé, maman et moi par négociation à 3 à 12 ans, et qui ensuite passait par le petit séminaire, etc. Ça n'a rien d'exorbitant, hein, parce que tous les destins sociaux se décident comme ça à 12 ans dans la société française à l'époque. Le clergé a beaucoup plus de marge de manœuvre, parce que le clergé il peut décider de son destin jusqu'à l'ordination à 25 ans. Donc il est beaucoup plus libre. Ça n'a rien d'exceptionnel que d'avoir un destin social fixé à 12 ans par ses parents. C'est la loi, c'est comme ça pour tout le monde. J'insiste un peu là-dessus parce que rétrospectivement, par anachronisme mental, on se dit mais mon Dieu, comment ils ont pu fabriquer ce clergé? De fait, d'ailleurs, dans la crise du clergé dans les années 70, ça compte, parce que beaucoup de gens se sont dit, mais au fond, ma vocation, c'était la vocation de qui? De ma maman, de mon papa, et psychanalyse aidant, ça a fait sauter la chaudière. Donc, mais la crise des vocations est plus ancienne, hein. Et du coup, il y a quand même deux courbes qui sont un peu différentes. La courbe de la pratique, qui était à peu près stabilisée dans les années 50, avec des situations variables d'un diocèse à l'autre, mais la conclusion de Boulard, c'était de dire, c'est stabilisé. On est sur une espèce de plateau. Mais Boulard pensait que le problème viendrait quand il viendrait de l'exode rural et de la disparition des chrétientés rurales. Ça, il savait que ça se produirait un jour, et il était très inquiet sur le destin de la courbe de ce fait. Il n'a pas imaginé un seul instant que ça viendrait des femmes et des enfants. C'est-à-dire que c'est venu, en fait, de la variable anthropologique et pas de la variable sociologique, et ça, personne ne l'avait vu. Parce que c'était considéré comme des clientèles captives qui se reproduisaient mécaniquement, d'une certaine façon. Donc, là, c'est la grande surprise, hein. c'est que ça vient des jeunes. Donc, ceci pour les vocations sacerdotales. Alors, sur la question que vous me posez, monsieur, je vous invite à lire mon livre, parce que je ne peux pas vous répondre en deux minutes. C'est horriblement compliqué. Je ne prétends pas du tout avoir fait le tour, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me réjouis qu'il y ait une discussion, parce qu'il faut que ça remonte, et que chacun apporte sa pierre, un peu, à la compréhension d'un phénomène extraordinairement complexe, qui me paraît, pour dire les choses de façon un peu triviale, procéder de la combinaison de deux mutations, une mutation religieuse actée par le concile mais préparée en amont, et une mutation socio-culturelle énorme qui a embarqué toutes les sociétés occidentales au milieu des années 60, quelles qu'elles soient. Précisément, les historiens ces dernières années ont beaucoup insisté sur le millésime de 65, en disant c'est vers 65 que les Trente Glorieuses commencent à produire leurs effets culturels. Et à ce moment-là, il y a des nappes de charriage qui s'enclenchent, ça se passe sous les semelles des contemporains, ils ne le sentent pas forcément, mais il y a un phénomène d'embarquement général. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de penser ensemble la mutation religieuse et la mutation socioculturelle. On a parfois dit, le concile se termine en 65, il correspond aux aspirations des courants avancés des églises européennes. En gros, l'Esprit Saint est français, allemand, belge et vient d'Amérique du Nord, en gros. Mais à des gens, je dirais, les jeunes gens des années 30, ça consacre les aspirations des jeunes catholiques des années 30, des milieux avancés du catholicisme. Et à ce moment-là, la mutation socioculturelle commence à se produire et fait souffler dans les voiles du Concile un vent que le Concile n'a évidemment pas du tout vu venir et qui déroute complètement le Concile, d'une certaine façon. Hein, et plus personne ne pilote la barque à partir de ce moment-là. C'est une interprétation possible. Je pense que ce n'est pas la seule. Mais voilà, il faut arriver à penser le social, le culturel et le religieux et à articuler les deux, à pondérer les facteurs. Bon, on peut y passer ses nuits.
Mais sur ce plan, très, très rapidement, est-ce que les années 50, pour reprendre un peu la thèse des cycles hein, que vous avez développés, n'ont pas eu un effet masquant par rapport à ce qui était en train de se passer en profondeur, c'est-à-dire la présence des partis démocrates chrétiens au pouvoir, le rôle de l'Église dans la socialisation des enfants du baby-boom que les États n'étaient pas tous prêts à recevoir, la part prise par l'enseignement religieux, la question scolaire. Pietro Scoppola en Italie dit « En fait, tout était joué avant le Concile, mais on l'a pas vu. » Parce que les années 50, c'était encore 3 millions de membres de l'Action catholique en Italie. On avait l'impression que tout allait bien, que le Concile avait ouvert vers le vent du large, alors que c'était déjà joué.
Non, c'est dans mon bouquin, je dis à un moment qu'il va falloir qu'on revienne sur ces années 50. Parce que la clé, probablement, de ce qui s'est passé dans les années 60, pour une raison chronologique, mais pas seulement, est là. Le problème, à mes yeux, c'est d'arriver à évaluer. Il y a des mouvements de transformation religieux enclenchés qui ont d'ores et déjà commencé à transformer le catholicisme français et les catholicismes européens dans les années 50. Tout le problème est de savoir jusqu'à quel point. Et c'est important, en fonction de la réponse qu'on va fournir, c'est-à-dire où en étaient exactement les églises en 62, en tout cas l'église catholique. Où on en était? Est-ce que les mouvements dits de modernisation et de renouveau n'avaient touché qu'un petit monde relativement étroit, une fine pellicule, et on avait affaire encore à des sociétés assez traditionnelles, qui peut-être d'ailleurs avaient déjà désinvesti de l'intérieur, mais ne le savaient pas encore, et il allait falloir lever le couvercle pour qu'elles s'en aperçoivent, au fond, de leur dire « mais vous n'êtes pas obligés d'aller à la messe », et tout à coup, ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Bon, donc... On ne pourra pas tout régler, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Mais, à mon avis, une des vraies questions que l'on rencontre quand on discute avec les témoins aussi, c'est, certains vous disent, mais le catholicisme des années 50 était encore très traditionnel, il y avait un milieu très étroit qui avait déjà pris le move et qui allait consacrer ses aspirations avec le Concile, mais les autres n'y étaient pas du tout. Et d'autres, au contraire, ont tendance à dire, n'exagérons pas, les années 50 avaient déjà pas mal... acter la mutation et le Concile s'est inscrit dans le prolongement sans être vécu comme une révolution véritable. Hein. Difficile à dire.
Oui, bon, moi je vous parle à partir de l'expérience d'une toute petite église, c'est comme un dériveur par rapport à un transatlantique. Le dériveur, dès que le vent cesse, il s'arrête. Le transatlantique, il continue sur son air pendant. J'appartiens à une église enfin, qui a été très attentive au contexte sociopolitique. Alors, moi, je ne dis pas que la cause de son déclin dans les années 50 tient à cela uniquement, mais il est très clair qu'il y a une chute brutale dès les années 50, d'autant plus brutale et difficile que le lendemain de la guerre a vu de très nombreuses consécration pastorale des gens qui sont engagés. Mais brutalement, dans les années 50-60, il y a une chute brutale, et ce que j'ai raconté tout à l'heure d'un collègue est tout à fait symptomatique, me semble-t-il, de ce qui traverse l'Église réformée de France à cette époque-là, c'est-à-dire le sentiment que l'institution a été incapable de parler dans le contexte et de la guerre du Vietnam, on pourrait dire et de la Shoah, et de la guerre du Vietnam, et de la guerre d'Algérie, et qu'elle est incapable d'avoir une parole publique dans une société en pleine transformation, notamment sur le plan économique. Et là, il y a vraiment une critique interne de l'institution qui se manifeste. Alors, il faut enquêter sur ces années 50, faites-le vite, parce que les témoins sont en train de disparaître très, très, très rapidement. Et il me semble que le petit protestantisme est assez symptomatique de ce qui s'est passé. Cela dit, effectivement, 30 ans plus tard, on a un changement complet. On a un changement complet avec... Moi, j'ai été pasteur en Normandie. À l'époque, j'étais pasteur en Normandie entre 75 et 89, je crois. La moyenne du corps pastoral protestant français était aux alentours de 41 ans. La moyenne du corps pastoral catholique en Normandie était de 70 ans. Alors, ça a quand même un effet sur la vie des communautés. Ça n'a fait aucun doute. Cela dit, nous ne sommes plus dans cette problématique-là. Enfin, on est quand même dans cette problématique aussi, mais enfin, on n'est plus dans cette problématique-là. La problématique aujourd'hui, c'est... Je ne crois pas qu'il y ait de lien entre le recrutement pastoral et la vie des communautés. Je crois qu'il y a à exprimer ce qu'est le ministère pastoral dans les communautés d'aujourd'hui, et cela, nous ne sommes pas encore clairs là-dessus.
Bien, nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je remercie en votre nom vivement les deux orateurs de ce soir et je me permets... Je me permets deux petites annonces. D'abord, le débat sur cette question du retour du religieux continue demain dans le cadre du colloque du CEFRELCO 5 rue Lascazes. Vous trouverez des dépliants à la sortie pour ceux que ça intéresse. Et d'autre part, nous nous retrouverons le 15 mai pour notre prochaine rencontre, ni le 1er ni le 8, mais bien le 15 mai. Le thème sera « Amoris Laetitia, 2 ans après ». Avec comme intervenant le père Alain Thomasset, qui est doyen de la faculté de théologie ici, Hélène Bricou, qui est professeure de théologie sacramentaire à l'Institut catholique de Paris, et Orane de Motor, directrice du pôle famille au sein du service famille et société de la conférence des évêques de France. Donc rendez-vous le 15 mai prochain pour une soirée consacrée aux 2 ans d'Amoris.